Vous écoutez
RMC.
16 magistrats, 13 greffiers pour traiter les affaires les plus graves dans 15 jours. Début du parquet national anticriminalité. Bonjour Fabrice Rizzoli.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste de la grande criminalité que l'on reçoit régulièrement ici. J'aime vos lumières. Et vous nous accompagnez pour essayer de comprendre ce monde de plus en plus complexe du narcotrafic. Vous êtes fondateur de l'association Crime Halt. Ce week-end, nouvelle fusillade encore à Marseille. Un homme de 22 ans qui a été tué, un autre blessé dans le quartier du Mail, dans le 14e arrondissement. 18e victime liée au trafic de drogue à Marseille. Est-ce le signe à nouveau de l'impuissance de l'État ?
Non, et notons quand même que c'est une très très bonne nouvelle, la mise en place de ce parquet anti-crime organisé. La critique serait que même dans son élaboration, on parlait de 31 magistrats et qu'on va en avoir que 17, et que vous m'avez déjà invité, que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire qu'on risque d'avoir un problème de moyens, comme on a un problème de moyens structurels pour lutter contre le trafic de drogue dont vous parlez. Si en plus on ajoute le fait qu'il y a déjà 316 dossiers, si on en croit nos confrères de Blast, qui sont déjà dans les tuyaux pour que ce nouveau parquet...
Ils sont déjà sur la table de ce parquet, voilà, qui n'a pas encore débuté. En
voilà, il y a déjà 300 dossiers et moitié moins de magistrats que ce qui était prévu par le document de préparation. Donc là, on va avoir un problème de moyens. Disons quand même que on voit bien que tous les efforts qui ont été faits récemment à Marseille... sur la direction de monsieur Nicolas Besson, par exemple, une cellule anticorruption. Okay. Mais depuis tous les efforts qui sont faits, 1 million en cash saisi dans un camion en 2024, jusqu'à 2,5 millions saisis, dont 55 lingots d'or saisis qui partaient en blanchiment pour l'Italie.
Parce que là, ce qui est intéressant, c'est que vous
on
parlez
voit qu'il y a
de
du
l'argent.
Progrès quand même.
Vous parlez de l'argent.
Voilà.
Vous parlez pas que des régulièrement.
Voilà.
On nous parlait jusqu'à présent des saisies de drogue, que ce soit dans le port du Havre, que ce soit à Marseille. Là, on parle d'argent.
Oui.
Parce que précisément, et c'est l'objectif de ce nouveau parquet national anticriminalité, c'est notamment, comme on disait en Italie, suivre l'argent.
Oui. Follow the money, que avec la création de la Grasse, que depuis déjà 15 ans, on commence à faire. Mais là, il y a une vraie poussée donc de la part de l'exécutif. Nous l'avons accompagné grâce à des lois que nous avons obtenues, comme la confiscation obligatoire. Mais c'est vrai que maintenant, il va falloir changer carrément de paradigme, de manière de faire. À chaque fois qu'on ouvrira une enquête pour trafic de stupéfiants, assassinat, il faudrait faire en même temps l'enquête patrimoniale. Ça ne sera pas frais à chaque fois si on n'a pas assez d'officiers de police judiciaire, assez de magistrats. Mais quand on le fait, ça marche. Encore une fois, 1 million cash saisi dans une camionnette. Et 8 millions en tout, si on compte les 55 lingots d'or, et les 2,4 millions cash saisi cette année.
Et là, vous parlez de l'argent physique.
Oui.
Il y a aussi la saisie des biens.
Oui.
Qui commence à se faire, y compris avec des nouveaux partenaires, en quelque sorte. C'est-à-dire que Dubaï, par exemple, qui
oui.
était considéré comme le paradis des narcotrafiquants, qui
oui.
partaient là-bas et qui dépensaient leur argent.
Oui.
Dubaï ne veut plus du tout avoir cette image-là. En tout cas, semble-t-il, est en train de coopérer avec la police française.
En effet, M. Darmanin a bien raison de dire qu'il a récupéré 82 appartements à Dubaï qui appartenaient à des trafiquants, ils seront vendus et la somme sera partagée entre les deux États. C'est en général la pratique qui se fait, en tout cas en Europe. Et surtout, il dit, les propriétaires de ces biens mal acquis ne percevront plus leur loyer. Et ça, c'est très très bien de le faire. Et vous avez raison de dire qu'il faut faire de la coopération internationale, car beaucoup d'argent sale va dans les pays étrangers selon un système de blanchiment extrêmement simple et en effet extrêmement compliqué à lutter contre, puisque parfois l'argent liquide ne sort pas du pays.
Alors quand vous dites que c'est à la fois simple et complexe, c'est ça ouais. qui est fou, c'est qu'on se rend compte que en effet il y a cet argent avec des entreprises, parfois même des entreprises un peu façades de BTP, et puis il y a ce dont on parle régulièrement, c'est-à-dire le blanchiment d'argent dans le commerce du coin,
oui.
l'épicerie, le barbershop, le kebab. Comment ça marche ? Je n'ai toujours pas compris, moi. Pardonnez-moi, mais
pas de soucis.
Je suis très naïve. Je vois effectivement des quartiers où fleurissent ce genre de commerce et je comprends que ce sont des blanchisseuses. Comment ?
C'est du blanchiment dans la mesure où une personne possède un commerce légal et que l'argent cash du trafic de stupéfiants va être mis dans la caisse et on va déclarer un chiffre d'affaires supérieur à la réalité.
En fait, on va faire semblant qu'on vend beaucoup de kebabs.
Oui.
Et donc, on rentre beaucoup de chiffre d'affaires.
Laissez-moi donner un exemple précis à Nantes qui a été jugé grâce au GIR, Groupement Interministériel de Recherche. Donc ici, c'était la gendarmerie. À Nantes, un barbershop déclarait 800 000 euros de chiffre d'affaires par an. Sachant qu'un salon de coiffure dans cet endroit, c'est 90 000 euros par an, en moyenne. Hein. Okay. Donc, pour faire autant de coupes, il faut en faire toutes les minutes, 24 heures sur 24 et pendant un an. Donc, c'est du blanchiment. Là, on saisit le commerce. Si c'est le commerce, il n'y a plus beaucoup de valeur. On vend le bien s'il y a un bien, etc. Et donc là, on récupère l'argent mal acquis par un système de blanchiment, comme vous dites, par le commerce de proximité.
Mais j'imagine que tous ne font pas quelque chose d'aussi grossier. C'est-à-dire qu'effectivement, 800 000 euros pour un commerce qui d'habitude fait 90 000 euros de chiffre d'affaires, là, c'est quand même assez gros et très visible.
C'est pas visible parce que ça ne pose pas de problème d'ordre public. Il n'y a pas de clients. Salon de massage à Paris, il n'y a pas de clients qui rentrent. Le problème, c'est qu'il vous faut un officier de police judiciaire qui se met devant et qui constate qu'il y a zéro client pendant une semaine. Il vous faut un officier de police judiciaire qui va faire tous les comptes sur un an, les tableaux Excel, les logiciels, etc. Il va falloir faire la preuve économique qu'il s'agit d'une opération de blanchiment. Et là, en général, quand la preuve économique arrive au tribunal, c'est gagné, mais ce n'est pas facile à faire et pourtant ça vous paraît simple.
Quel est l'intérêt de Dubaï, par exemple, d'accepter de renoncer à cette espèce de statut de paradis pour narcotrafiquants?
Je pense qu'il y a une espèce de d'image qu'on veut s'acheter, qu'on n'est plus un paradis fiscal. Dans l'esprit de Dubaï, c'est juste le libre commerce total, presque zéro impôt, aucune contrainte. Mais si on arrive à leur démontrer que c'est l'objet du trafic de stupéfiants, alors ça peut les aider à gagner en image.
Vous y croyez, j'ai l'impression quand même, à ce nouveau fonctionnement, cette nouvelle manière de traquer désormais, notamment l'argent, à ce nouveau parquet national anticriminalité. C'est ce qui nous manquait.
Il fallait un nouveau parquet pour pouvoir gérer des affaires au niveau national. Mohamed Amra s'évade en Normandie, mais il est accusé, d'avoir tué à Marseille. En même temps, il est en contact avec des grossistes au Maroc, en Espagne, et il a des investissements à Dubaï. Il nous fallait un parquet national pour ce type d'affaires. En ce qui concerne Follow the Money, il y a beaucoup déjà de parquets qui le font très bien. On a cité Marseille, il y en a d'autres. Je vous ai donné un exemple à Nantes. Ça se fait déjà, mais il va y avoir absolument un problème de moyens.
Il n'est pas trop tard.
Il n'est pas du tout trop tard. Et si on assèche les finances, on n'arrêtera pas le trafic de stupéfiants. Il y aura toujours des consommateurs et des vendeurs. Mais avec d'autres éléments, on évitera, par exemple, des victimes. Comme 52 homicides lors d'une guerre entre clans Yoda des Z-Mafia en 2023 et des victimes innocentes, car je rappelle que des innocents meurent. Mehdi Kassessi en dernière date.
Le frère d'Amine Kassessi. Merci Fabrice Rizzoli, donc spécialiste de la grande criminalité, fondateur de l'association Crime Halt.